哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
哒哒哒哒哒哒哒哒Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12.
Aujourd'hui, nous vous invitons à entendre de larges extraits de l'intervention de Pierre Stamboul le 24 janvier au Créa à Millau. Rappelons que Pierre Stamboul est le fils d'un couple de résistants communistes juifs et dont le père a été le seul rescapé des 67 du groupe Manouchian. Il fut néanmoins déporté.
Vous savez aujourd'hui que dès le moment où vous ne prenez pas en compte la version des génocidaires sur le 7 octobre, ses soutiens au terrorisme, et dès que vous manifestez pour la Palestine, vous êtes des antisémites. Alors je vais essayer un petit peu de décrasser cette affaire-là, et notamment sur la question sionisme et antisémitisme. Je commencerai peut-être un petit peu par évoquer Benjamin Netanyahou, ce brave homme, qui avait déclaré en 2015 que Hitler ne voulait pas tuer les Juifs et que c'était le grand moufti de Jérusalem qui lui avait soufflé l'idée. Déclaration parfaitement négationniste, mais déclaration qui a un sens chez Netanyahou. C'est de dire... La haine des Juifs, le massacre des Juifs, c'est les Arabes et les musulmans, c'est pas l'Europe et les chrétiens, et c'est pas en Europe. Tout ça, évidemment, c'est totalement faux, donc je vais un peu donner l'histoire de l'antisémitisme, et je vais expliquer pourquoi le sionisme est la pire des réponses à l'antisémitisme, et je terminerai en essayant de vous convaincre que les dirigeants israéliens actuels ne sont pas les descendants des victimes du génocide nazi, ce sont les descendants des collabos. Et cette idée, elle doit être extrêmement importante parce que dans l'image, quand j'étais jeune, l'image que tout le monde avait des Juifs, c'était l'image d'une communauté humaine qui avait subi le pire massacre, le pire génocide. Et je vous ai expliqué que dans ma famille, ça a été assez large. Et aujourd'hui, on a dans l'idée que c'est ceux qui soutiennent un génocide. Et on se demande comment les gens qui ont subi l'un peuvent faire l'autre. C'est pas les mêmes. C'est un peu ce que je vais essayer d'expliquer. Alors, l'anti-judaïsme chrétien, c'est ce qui commence et qui va durer pendant plus d'un siècle. C'est en Europe, les chrétiens, quand ils prennent le pouvoir à la fin de l'Empire romain, qui vont décréter contre les juifs, qui étaient une religion concurrente, toute une série de stigmatisations. Donc ils vont décréter contre les juifs que c'est un peuple déicide, ça ne sera abrogé qu'en 1965, qu'ils veulent dominer le monde, qu'ils commettent des crimes rituels, on va leur interdire de posséder la terre, on va interdire l'usure et la banque aux chrétiens pour la confier aux juifs, mais ne vous détrompez pas, la très grande majorité des juifs n'étaient ni usuriers ni banquiers, mais... Le fait qu'il y ait des usuriers et des banquiers juifs, ça va augmenter évidemment la haine contre les juifs et on va leur interdire de posséder la terre. Et dès le premier millénaire après Jésus-Christ, les expulsions de juifs commencent en Espagne, les rois mérovingiens, etc. Et à partir de la première croisade, 1096, c'est les massacres, les croisés. Avant d'aller massacrer les infidèles musulmans au Proche-Orient, vont se faire la main sur les communautés juives de la vallée du Rhin, Worms, Spire, Cologne, Mayence, etc. Et pendant tout le Moyen-Âge, la construction des États va s'accompagner du massacre, de tout ce qui gênait la construction de ces États, les hérétiques, les lépreux, les prostituées, les sorcières et les juifs. Et donc on va avoir, en 1348 à Strasbourg, plus de 2000 juifs qui sont brûlés, accusés de propager la peste noire. Les juifs vont être expulsés plusieurs fois du royaume de France, par Philippe Auguste, par Philippe le Bel. Ici on est tout près du Larzac. Il s'est fait la main sur les Templiers, mais il s'est fait la main exactement sur les Juifs aussi, avec un peu le même phénomène. On les a brûlés et on a annulé les dettes, c'est toujours intéressant. Et le résultat, c'est qu'il n'y aura quasiment pas de Juifs en France au moment de la Révolution française. Il n'y aura des Juifs que dans les régions récemment annexées, l'Alsace, Avignon, Bayonne, mais ailleurs, ils avaient été expulsés. Dans l'anti-judaïsme chrétien, il va y avoir l'épisode espagnol, où probablement 10% de la population était juive, et ça va, la construction de l'État moderne espagnol va se faire avec la liquidation des morts, des Arabes et des Juifs. Ce qui est déjà, on doit aussi comprendre qu'il y a cette idée-là dans le racisme, qu'elle est liée à la volonté forcenée d'un État ethniquement pur. Les Espagnols vont être là-dessus des précurseurs. Ils vont obliger les Juifs à se convertir, ils vont continuer à persécuter les Juifs convertis, ils vont en expulser plusieurs centaines de milliers vers le Proche-Orient ou vers le Maghreb, et ils vont en brûler pas mal, et puis ils vont même rechercher la pureté du sang des chrétiens d'origine juive, bien avant Hitler. Dans cet anti-judaïsme chrétien, il y a l'Ukraine aussi, avec des très grands massacres au XVIIe siècle. Succède à l'anti-judaïsme chrétien l'antisémitisme racial. L'antisémitisme racial, il apparaît au XIXe siècle. Il apparaît parce que les Juifs sortent du ghetto, donc ça alimente tous les fantasmes. Il apparaît parce que sur les ruines des trois grands empires d'Europe de l'Est, l'Empire russe, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, toute une série de nationalismes vont prôner l'État ethniquement pur. Exactement le modèle qui va être le modèle des sionistes. Et dans cet état ethniquement pur, il n'est pas possible en Europe de l'Est parce qu'il y a une minorité juive qui forme entre 5 et 10% de la population un peu partout. Et tous ces nationalismes-là vont être profondément antisémites. Et puis cet antisémitisme racial, et là il faut faire le lien avec ce qui est en train de se passer en Europe en ce moment et aux États-Unis aussi, il est aussi lié au comportement honteux de toute une élite intellectuelle, une élite de journalistes, d'historiens, d'anthropologues, de linguistes, de journalistes, qui vont théoriser l'existence et l'inégalité des races. Et ce racialisme qui naît à la fin du XIXe siècle, les grands noms des racialistes, c'est Vacher de la Pouge, c'est Gobineau, c'est Chamberlain, c'est l'Allemand Wilhelm Marr, c'est lui qui invente le mot antisémite. Les Juifs ne sont pas des sémites. Les Juifs, vous voyez que ni Sarah ni moi n'avons le type proche-oriental. Les Juifs sont des descendants de convertis. Les descendants des Judéens de l'Antiquité, c'est les Palestiniens. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de race. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Donc, cette classification arien sémite est évidemment une classification totalement absurde. Même les Arabes ne sont pas des sémites, il y a parmi eux des Égyptiens, des Berbères qui n'ont rien à voir avec les sémites. Même le mot Palestine, c'est les Philistins, ça n'a rien à voir avec les sémites. Donc il faut enlever cette classification. Il n'empêche que le mot antisémite va s'imposer et que l'antisémitisme va devenir hégémonique en Europe occidentale et en Europe orientale à la fin du XIXe siècle. En Europe occidentale, les Juifs sont en train de s'émanciper. Ils sont en train d'acquérir des droits, mais ça va être fortement combattu, c'est l'affaire Dreyfus. En Europe centrale, l'antisémitisme va se développer énormément chez les élites. Je donne quelques exemples. Vienne aura pendant 13 ans un maire antisémite, alors qu'il y avait 300 000 juifs à Vienne, autour de 1900. En 1919, il y a deux Allemands qui ont le prix Nobel de physique. Et il y avait parmi eux Jonathan Stark, qui deviendra nazi, et qui, en tant que nazi, dira qu'il existe une physique juive, et que c'est la radioactivité, parce que c'est Einstein. C'est-à-dire, on mesure un petit peu à quel point Idéologiquement, l'antisémitisme avait envahi, y compris l'élite intellectuelle de l'époque. Et puis surtout, dans l'endroit où vivent la majorité des Juifs, c'est l'Europe orientale, où 60% des Juifs du monde entier vivent. Le recensement de 1881 dans l'Empire russe donne... L'Empire russe allait jusqu'à la Finlande, la Pologne orientale, la Biélorussie, les Pays-Baltes, etc., la Moldavie. Il y avait 135 millions d'habitants, dont 6 millions de Juifs. Et comme dès l'annexion des territoires occidentaux de l'Empire, l'Empire avait déclaré une zone de résidence où les Juifs pouvaient habiter, dans la zone de résidence, c'est toute la partie occidentale de l'Empire, entre mer Baltique et mer Noire, il y avait 55 millions d'habitants et 5,5 millions de Juifs. Donc on est à 10% de la population, et comme les Juifs n'avaient pas le droit de posséder la terre, cette population juive était répartie dans des shtetl, en yiddish ça veut dire c'est le nom des bourgades juives, ou dans les villes. Et la majorité des villes d'Europe orientale de cette époque, quasiment la moitié de la population est juive. À Kiev, à Odessa, à Minsk, à Vilnius et à Varsovie. Donc c'est ça un petit peu la physionomie du monde juif quand le sionisme va apparaître. Une réponse à l'antisémitisme, mais je l'ai dit, c'est la pire des réponses. Puisque c'est la réponse non pas de combattre l'antisémitisme, mais de dire « juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays où ils vivent, ni dans l'État juif qu'on va construire. » Et vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza aujourd'hui si vous n'avez pas dans l'esprit les textes fondateurs de Herzl, l'impossibilité du vivre ensemble. Donc aujourd'hui, tous ceux qui parlent du grand remplacement et tout, ils sont dans la philosophie du fait qu'il y a l'impossibilité du vivre ensemble et qu'il faut séparer les gens. Une théorie de la séparation. Le sionisme, du coup, va se poser la question, il nous faut un État. Ils vont réfléchir si on allait en Ouganda, en Argentine, etc. De toute façon, où qu'ils aillent, ça aurait été la guerre, parce que c'était des pays peuplés. Et ils vont choisir la Palestine avec l'idée que ça va répondre aux religieux. Et ils vont se gourer là-dessus. Ils n'auront l'appui des religieux que 50 ans plus tard. C'est-à-dire que la religion juive était une religion, dans ces années, et pratiquement jusque dans les années 1960, une religion non territorialiste. On pouvait étudier la Torah ou commenter le Talmud n'importe où. L'an prochain à Jérusalem, ça ne voulait pas dire « je vais à Jérusalem, j'expulse les autochtones et je m'installe ». Ça voulait dire « mes pensées vont vers Jérusalem » comme les pensées des musulmans vont vers la Mecque. Et le peuple élu, ce n'était pas celui qui avait le plus de droits, c'est celui qui avait le plus de devoirs. Donc ils n'auront pas l'appui des religieux. Même Theodor Herzl, quand il veut faire le congrès fondateur du sionisme à Munich, il y a une pétition, je crois, de 91 rabbins allemands sur 95 contre ce qu'ils appellent la folie sioniste. C'est une lettre ouverte et qui fait que le congrès fondateur a eu lieu à Bâle et pas à Munich. C'était l'opposition des religieux. Les sionistes vont aussi avoir l'opposition farouche des assimilationnistes. Par exemple, quelqu'un comme Bernard Lazare, qui était anarchiste, a suivi Herzl au tout début, au moment de l'affaire Dreyfus, et il va se séparer d'Herzl parce que, comme la plupart des juifs assimilés d'Europe occidentale ou d'Europe centrale, leur volonté, c'est d'obtenir l'émancipation sur place, et c'est pas de partir là-bas et de créer un État. Nous, quelque part, à l'Union juive française pour la paix, nous voulons les héritiers d'une période où la majorité des Juifs pensaient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité, ce qui est exactement le contraire de la pensée sioniste. Et le sionisme va avoir l'opposition immédiate des Juifs révolutionnaires. Alors pourquoi il y avait autant de Juifs révolutionnaires? Parce que la politique du tsar, où vivait la majorité des Russes, est une politique d'organiser les pogroms à partir de 1881, organiser des pogroms pour empêcher la montée du mouvement révolutionnaire. Et mes deux grands-mères sont des survivantes du plus fameux pogrom, celui de Kishinev, en 1903. Cette politique de persécution des Juifs va provoquer un exode massif. Plus de 2,5 millions de Juifs de l'Empire russe vont partir vers l'Ouest, en majorité vers les États-Unis, mais aussi vers l'Argentine ou vers l'Europe occidentale, Grande-Bretagne et France, et Allemagne. Et dans la religion juive, le peuple juif a été puni par Dieu pour s'être mal comporté, et il est interdit de contrevenir aux ordres de Dieu avant l'arrivée du Messie. Et donc les rabbins vont prôner la soumission aux pogromistes, et du coup énormément de juifs vont quitter la religion et s'engager dans des mouvements progressistes ou révolutionnaires. C'est mes origines personnelles, un petit peu aussi celles de Sarah. Et vous trouverez des juifs dans tous les mouvements révolutionnaires, chez les bolcheviks, chez les mencheviks, chez les socialistes révolutionnaires, chez les sociodémocrates, chez les anarchistes. Et il y aura même un parti révolutionnaire juif, le Bund, dont les théories sont intéressantes. C'est-à-dire que le Bund était un parti athée, révolutionnaire, donc à l'intérieur de l'international, et il était contre le sionisme, il ne voulait pas de territoire, il prenait l'autonomie culturelle, c'est-à-dire la pratique de la langue yiddish, qui était la langue des juifs d'Europe orientale, les pratiques culturelles, les pratiques communautaires, sans territoire spécifique. Quelque part, je trouve que par rapport au racisme terrible que vivent en Europe la minorité arabo-musulmane ou la minorité rome, cette idée me paraît extrêmement intéressante. L'idée de l'assimilation forcée étant évidemment une idée absurde et une idée criminelle. Et j'en avais même eu j'avais été conforté par ça quand on rencontre en Palestine, très exactement en Israël, l'extrême gauche des Palestiniens d'Israël, le Balad, et Jamal Zahalka, leur secrétaire général, nous fait un grand exposé sur la persécution des Palestiniens en Israël. Et il dit, nous nous battons pour l'autonomie culturelle. Je lui dis, mais Jamal, c'était la position du Bund, parti révolutionnaire juif. Il me dit, je sais, la situation des juifs de l'Empire russe et la situation des Palestiniens en Israël est la même. Je trouve que c'est une avancée historique assez importante de comprendre cette affaire-là. Et donc le sionisme va être au début complètement minoritaire. Le Bund, dans ses écrits, il y a un très, très beau livre qui est sorti là-dessus, qui s'appelle « Nous ne sommes pas le peuple élu ». C'est un jeune Français qui a appris le yiddish et qui a retrouvé tous les textes du Bund polonais entre les deux guerres. Et le Bund dit des sionistes que c'est un parti de la bourgeoisie et c'est un parti ami des antisémites. Et cette idée est à creuser. On pense à tort que le sionisme a combattu l'antisémitisme. Et ça, c'est ça que vous devez avoir en tête. Jamais, jamais. Je vais aller plus loin. Dans l'histoire de 130 ans maintenant du sionisme, il y a 6 années, 1939-1945, où les antisémites passent à l'extermination. Pour une raison simple. Hitler attaquait la Pologne, où 12% de la population était juive. Puis il attaque l'Union soviétique, où il va y avoir encore des millions de juifs. Il sait qu'il va avoir une résistance de ce côté-là. Quand il rentre dans Varsovie, les dernières troupes qui se battent, c'est les troupes du Bund. Et donc, ils passent à l'extermination. En dehors de ces 6 années-là, sionistes et antisémites ont la même idée que les Juifs dégagent et quittent l'Europe. Et ça date d'Herzl. C'est-à-dire, Herzl allait voir tous les antisémites de son époque en leur disant, vous et moi, nous avons les mêmes intérêts que les Juifs quittent l'Europe. Il est allé voir Drummond, le chef des anti-Dreyfusards, qui écrivait dans son torchon à propos d'Herzl, ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien. Il est allé voir Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, qui griffonnera à son ministre de l'Intérieur, ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs. Il ira voir Plévé, le ministre de l'Intérieur du Tsar, l'organisateur des pogroms, et Plévé aidera Herzl dans le projet sioniste, avec l'idée que les Juifs russes doivent partir, en intercédant auprès du sultan ottoman pour favoriser l'entreprise sioniste. Et après la mort d'Herzl, les plus grands amis des sionistes vont être les chrétiens sionistes. Cela existe toujours. Ils sont 80 millions aux États-Unis. Ce sont des chrétiens évangélistes profondément antisémites pour lesquels les juifs doivent retourner en Terre Sainte pour favoriser le retour du Christ, chasser le mal, Armageddon, chasser les arabes, puis se convertir à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Trump a inauguré l'ambassade états-unienne à Jérusalem, il a fait venir certains de ces chrétiens sionistes pour inaugurer l'ambassade. Il a fait venir John Hagee, qui expliquait que Hitler était juif et qu'il était guidé par la main de Dieu. Il a fait venir Robert Jeffress, qui expliquait que tout juif ira en enfer et ne pourra jamais être sauvé, etc. Ce sont ces chrétiens sionistes aujourd'hui qui ont financé l'essentiel de la colonisation en Cisjordanie. Vous devez savoir que pour un dollar qui est venu des juifs états-uniens, il y a eu 10 dollars qui sont venus des chrétiens sionistes. C'est donc les antisémites qui ont financé la colonisation en Cisjordanie, soyez-en bien persuadés. Pourquoi j'ai parlé des chrétiens sionistes? Parce que Balfour était un chrétien sioniste. Lloyd George était chrétien sioniste. Truman, le président des États-Unis au moment de la création d'Israël, était chrétien sioniste. Et Balfour était profondément antisémite. Quand il était premier ministre en 1905, il avait dicté des lois anti-juives contre les juifs polonais qui venaient semer la révolution à Londres. Et quand il, 12 ans après, il écrit une belle lettre à la Fédération sioniste anglaise en disant « on va vous offrir la Palestine ». Il n'y a pas de contradiction. Pour les antisémites, les juifs étaient des parias en Europe et s'ils partaient là-bas, ils devenaient des colons européens en Asie. Et le sionisme, c'est ça. C'est comme ça que vous devez le comprendre. Donc, enlevez-vous de la tête que le sionisme aurait combattu l'antisémitisme. C'est pas vrai. Même si on va beaucoup plus loin, les sionistes ont toujours, avant la création de l'État d'Israël, leur objectif fondamental, c'est la création d'un État juif. Et le fait qu'ils aient en face d'eux des antisémites est quelque chose de secondaire. Je vais donner deux exemples qui concernent l'Allemagne. En 1933, Hitler arrive au pouvoir. Ben-Gurion, depuis l'agence juive, commence des négociations avec l'Allemagne nazie, qui vont aboutir aux accords de Havara. Havara veut dire en hébreu transfert. et qui vont permettre à 60 000 riches juifs allemands d'émigrer en Palestine. Avec des conditions draconiennes, ils devaient laisser l'essentiel de leurs biens en Allemagne. Ça ne concernait pas la grande majorité des juifs allemands qui n'avaient pas d'argent. Et les juifs du Yishuv, les juifs qui étaient déjà en Palestine, devaient consommer allemand. On trouvera des outils, des Mercedes ou des Opel en Allemagne jusqu'à 1940. Et en même temps, en faisant ça, Ben-Gurion brisait le boycott de l'Allemagne nazie que les juifs états-uniens avaient déclaré. On sait qu'il y a une très grande émotion dans le monde juif quand le nazisme arrive. On trouvera énormément de juifs dans les brigades internationales en Espagne et tout. Et en 1933, les sionistes signent des accords avec les nazis. Après la guerre, on est en 1953, en Allemagne, la RFA, la République fédérale allemande, n'est reconnue par personne. Et le chancelier Adenauer voudrait la faire rentrer dans le concert des nations. Il entame des négociations avec Ben-Gurion sur le mode « on va indemniser les victimes juives du nazisme », et je dois reconnaître que mes parents ont touché beaucoup, « et en échange, vous nous aidez à rentrer dans le concert des nations ». Ben-Gurion dit d'accord. Donc, ce sera signé. Et qui était le négociateur de Konrad Adenauer? C'était Hans Globke, l'un des auteurs des lois raciales de Nuremberg en 1935 et qui était chargé en 1936 de combattre la souillure raciale. Ben-Gurion savait parfaitement avec qui il négociait. Mais la question de construire l'État juif et le rendre le plus puissant possible était complètement indépendante de la question de l'antisémitisme. Donc enlevez-vous de l'idée que l'antifascisme, c'est le sionisme. C'est pas vrai. Et là, je vais parler maintenant de la droite sioniste. La droite sioniste, c'est une droite fasciste dès sa construction. 1920, il y a une scission du mouvement sioniste. Il y a un petit courant qui naît, qui est fondé par Vladimir Jabotinsky, qui s'appelle lui-même le courant révisionniste. Aujourd'hui, en Israël, il y a partout des avenues Jabotinsky, des musées Jabotinsky, et tous les dirigeants israéliens depuis 1977 quasiment se réclament de Jabotinsky. Jabotinsky était un fasciste. Il était l'ami de Mussolini, qui parlait avec tendresse de notre ami juif fasciste Jabotinsky. Jabotinsky avait fondé le Bétard, qui est un groupe terroriste qui a, dès le début, pratiqué la pire des violences contre les Palestiniens. Le Bétard s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. Le secrétaire particulier de Jabotinsky était un certain Benzion Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. Et donc voilà, je veux dire que le père du premier ministre actuel d'Israël était le secrétaire d'un militant fasciste avéré. Et un peu pire, va sortir du courant révisionniste l'Irgun, qui est fondé en 1931. En 1936, c'est Menachem Begin, le futur premier ministre, qui en prend la tête. Va sortir de l'Irgun le Lehi, ou groupe Stern, qui va continuer la guerre contre les Anglais, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le groupe Stern, après l'exécution de Stern, sera dirigé par Yitzhak Shamir, futur premier ministre israélien pendant 7 ans. Shamir a fait assassiner pendant toute la Deuxième Guerre mondiale des soldats anglais. Il fait assassiner Lord Moyne, le haut représentant britannique au Caire, en 1944. Et on a même la preuve, dans mon livre j'ai retrouvé les traces de ça, que le groupe Stern enverra des émissaires à l'ambassade nazie à Beyrouth, sur le mode « nous avons un ennemi commun, nous pouvons nous entendre ». Donc je veux dire que ces gens-là qui osent porter la mémoire des victimes, alors qu'ils ont été des collabos, alors vous allez me dire, moi je suis juif, je peux me permettre de le dire, il faut quand même que vous le sachiez. Il faut que vous sachiez que dès le départ, ces gens-là n'ont jamais été ni dans le camp du progrès, ni dans le camp de l'antiracisme. Il y a eu une résistance juive au nazisme. Le père de Sarah en a fait partie, mes parents en ont fait partie. Cette résistance, elle était communiste, elle était bundiste, elle était progressiste. Les juifs, les sionistes n'ont joué dans la résistance juive au nazisme qu'un rôle secondaire. Il y en a eu, bien sûr, tout le monde était visé, quelles que soient ses opinions politiques. Et par exemple, c'est typique que quand les Israéliens parlent de l'insurrection du ghetto de Varsovie, ils oublient juste deux choses. Ils ont effacé le commandant second de l'insurrection qui était Marek Edelman et qui était bundiste et qui est resté bundiste et antisioniste jusqu'à sa mort en Pologne il y a une quinzaine d'années. Et ils ne disent pas que le jour de l'insurrection, les insurgés, le premier jour, ont tué 120 membres du Judenrat, qui étaient les conseils juifs créés par les nazis et qui sont responsables, d'après Hannah Arendt, d'une bonne partie de l'extermination, en ayant envoyé de nombreuses personnes dans les camps d'extermination. Donc, enlevez-vous de cette idée que le sionisme a combattu l'antisémitisme. Je vais terminer sur un truc. Aujourd'hui, après l'anti-judaïsme chrétien, qui ne s'est pas terminé, mais on n'est plus dans la même phase, après l'antisémitisme racial, qui a continué après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était plus difficile. Dans mon livre, j'ai quand même retrouvé une citation de Jean-Marie Le Pen, qui est croustillante. En 1958, il est jeune député poujadiste, et il dit à Main des France, « Vous n'ignorez pas que votre présence provoque une répulsion physique et même patriotique. » C'est du Jean-Marie Le Pen, 1958. Il ne s'est pas renouvelé depuis. Donc, L'antisémitisme racial continue, mais il n'est pas dominant. Ce qu'il y a maintenant, je reprendrai les termes de ce que Edgar Morin, qui lui-même, de son vrai nom, Edgar Naoum, est un descendant de juifs séfarades, il appelle ça l'anti-israélisme. C'est-à-dire qu'on est maintenant à un moment où on a un État qui a dépassé le stade de dire qu'il est un État juif, il se prétend l'État des juifs. C'est-à-dire qu'alors que 40% seulement des juifs du monde entier vivent en Israël, Israël met déjà les 60% autres en danger en disant finalement que c'est des touristes qui n'ont pas compris qu'ils doivent partir dans leur véritable patrie qui serait Israël. Donc c'est l'idée que le sionisme représente un danger vital pour nous. Quand nous, juifs antisionistes, on nous dit « vous êtes courageux », je dis « attendez, on sauve notre peau, hein, on est sommé d'être traître ou complice, mais voilà, on est chez nous ici en France ». Et on n'est pas des étrangers qui n'ont pas compris qu'ils devraient partir. Mais ça va beaucoup plus loin. Les institutions juives qui sont reconnues par les gouvernements néolibéraux sont toutes liées au sionisme. Et donc on aboutit à une situation épouvantable où on a un État assassin. Sarah vous a largement montré ce qui sont le génocide en cours à Gaza. On a un État dont les dirigeants sortent les pires propos. Yoav Galant, les Palestiniens sont des animaux humains, dont les dirigeants ont appelé ouvertement à tuer les femmes et les enfants. Et cet État prétend parler au nom des Juifs, et critiquer cet État serait être antisémite. Vous comprenez l'escroquerie absolument totale. Donc on a constamment à expliquer, Israël c'est un État étranger, c'est pas l'État des Juifs, il n'a pas le moindre droit de parler au nom des Juifs. Le CRIF, il a été créé par des résistants, dont des communistes, en 1943-44. Pendant un certain temps, il a parlé avec un certain pluralisme de ce qu'étaient les Juifs de France en allant des athées, des communistes, aux religieux et à tous les partis politiques. Maintenant, c'est fini. Le dernier grand leader du CRIF qui était pluraliste, c'était Théo Klein. Mais maintenant, depuis 25 ans, ils sont complètement inféodés à un État assassin, et puis ils sortent les pires propos. Quoi. Quand le grand rabbin Chaim Korsia dit qu'il faut finir le travail à Gaza, quand Gilles William Goldnadel dit « oui, il y a des colonies de peuplement, pas en Judée-Samarie où les Juifs sont chez eux, mais dans le 9-3 », quand Arnaud Klarsfeld dit « les musulmans sont nombreux à travailler sur les chantiers, ils vont avoir accès aux explosifs, ils vont venir tuer les Juifs, et je pourrais continuer comme ça longtemps », on comprend bien que ces gens-là sciemment mettent les Juifs en danger et sciemment essaient d'en faire les complices d'un État assassin. Donc quand on veut défendre les Juifs, on doit être profondément antisioniste et défendre l'universalisme. Et j'ajouterai que si pendant plus d'un siècle, l'antisémitisme a été le dénominateur commun de toutes les idéologies de haine et d'exclusion en Europe et dans le monde, aujourd'hui, c'est de plus en plus l'islamophobie qui joue ce rôle-là, que les partis d'extrême droite dans toute l'Europe se sont fait élire sur des programmes clairement anti-arabes et anti-musulmans, et que tous les dirigeants de l'extrême droite aujourd'hui, y compris les descendants des régimes antisémites d'Europe de l'Est, sont tous pro-israéliens, qu'aujourd'hui on voit l'AFD, qui à la fois en Allemagne se proclame la grande défenseuse des Juifs, et puis sa dirigeante vient d'expliquer que Hitler était communiste, etc. On est dans cette situation-là, une situation de confusionnisme, mais voilà, je voudrais dire quand même sur l'islamophobie, ce qu'on dit aujourd'hui des musulmans, ça ressemble quand même étrangement à ce qu'on disait des Juifs dans les années 30. On ne savait pas à cette époque-là à quoi ça allait mener, on ne sait pas aujourd'hui non plus à quoi ça va mener, mais aujourd'hui, c'est une lutte antiraciste complète qu'il faut mener. Il faut dénoncer le racisme contre les Noirs, contre les Roms, contre les Arabes, contre les Juifs, contre les musulmans. Il ne faut pas mettre de hiérarchie aujourd'hui. Et ceux qui essaient de mettre une hiérarchie en faisant de l'antisémitisme un racisme à part, ils sont en plein dans le confusionnisme. Et là, malheureusement, même à gauche, il y a beaucoup de gens qui font ça.
Vous venez d'entendre l'enregistrement de l'intervention de Pierre Stamboul le 24 janvier à Millau. a noté la parution de son dernier livre, Du projectionniste au génocide, aux éditions Acratie, que vous pourrez trouver dans les librairies de Millau.
Avant ma signe, fais ce que je te vends, non, fais gauche en moi,